Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Steve Rivière. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
À Hébron, les relations sont transformées. Ce n'est plus du tout pareil. Elles passent à un autre niveau. À Adoulam, les relations étaient instables et immatures, charnelles. À Hébron, les relations sont stables, matures et spirituelles. À Adoulam, les relations étaient basées sur les besoins et les intérêts personnels. À Hébron, les relations sont basées sur l'alliance et les intérêts de Dieu. L'alliance et les intérêts de Dieu. 2 Samuel 2, à partir du verset 1, nous dit ceci. Après ces événements, David consulta le Seigneur. « Dois-je me rendre dans une des villes de Juda ? » demanda-t-il. « Oui, répondit le Seigneur. » « Dans laquelle ?» demanda encore David. « À Hébron, » dit le Seigneur. David s'y rendit accompagné de ses deux femmes, Ahinoam de Jizréel et Abigaël, veuve de Nabal de Carmel. Il emmena également ses compagnons et leurs familles qui s'installèrent dans les localités voisines d'Hébron. Alors les gens de Juda vinrent à Hébron pour y consacrer David, roi de Juda. Lorsqu'on informa David que les habitants de Yabesh, en Galaad, avaient enterré Saül. Donc ici, après la mort du roi Saül, on voit ici comment le roi David se comporte. C'est lui maintenant le seul roi qui reste. Son ennemi, le roi Saül, est mort. Et David n'a pas choisi de prendre le royaume, même s'il était appelé par ses propres forces. Encore une fois, il se tourne vers Dieu et demande à Dieu ce qu'il convient de faire. Et Dieu lui dit, va à Hébron, dans une des villes de Juda. Et il obéit, il s'en va. Et là, toute la tribu de Juda vient et consacre David comme roi. Et David devient alors à Hébron le roi de Juda. Hébron, c'est le lieu où les relations deviennent fortes. Le lieu où Dieu installe son règne. Vous savez, Hébron, la ville d'Hébron, aujourd'hui en Israël, est la ville naturelle, une des plus hautes au niveau de l'altitude. Elle est à plus de 900 mètres d'altitude à peu près, un peu comme la plaine des Cafes, ici à La Réunion. Et c'est une ville qui était à l'époque difficile d'accès. Ce n'était pas facile de se rendre à Hébron, à l'époque. Il fallait être un bon marcheur. Il fallait savoir faire 900 mètres de dénivelé pour aller à Hébron. Et Hébron est aussi le lieu où les patriarches Abraham, Isaac et Jacob et leur épouse, ils ont été enterrés dans la région d'Hébron. Et le mot hébreu, Hébron, puisque c'est un nom hébreu, signifie s'associer, s'allier, se lier d'amitié, joindre ensemble, s'unir, union, c'est le lieu où on fait alliance. Hébron, c'est le lieu de l'alliance, où les relations sont construites selon les principes de l'alliance et non plus sur les émotions, sur les opinions, sur juste la personnalité, sur juste le fait que j'aime bien parce qu'il répond à mes besoins. À Hébron, les relations sont bâties sur l'alliance, les principes de l'alliance. Et ça, ça fait toute la différence. C'est pour ça qu'à Hébron, les relations deviennent fortes. À Hébron, les relations deviennent matures. Comprenons bien ceci. Les relations, c'est ce qu'il y a de plus important pour Dieu. C'est plus important, le plus important pour Dieu, c'est les relations. Lorsque un docteur de la loi vient voir Jésus, lui dit « Quel est le plus grand des commandements ?» Jésus lui répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. » Ensuite Jésus dit « Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Même si j'ai déjà dit. Mais ces deux-là ne font qu'un. Et ça parle de relation avec Dieu et de relation avec l'autre, son prochain. Parce que pour Dieu, les relations, c'est ce qu'il y a de plus important. Écoute bien ceci. Par le biais des relations, nous pouvons expérimenter le ciel, et par le biais des relations, nous pouvons expérimenter l'enfer. C'est au travers des relations que se communiquent la joie, la paix, la force, le bonheur. C'est au travers aussi des relations que se communiquent la haine, la jalousie, l'amertume, la rancœur, les guerres. Les relations sont très importantes. Nous sommes des êtres relationnels. Et nous devons être des experts en relations. Et Hébron, c'est le lieu où l'Église apprend à construire les relations sur les bases de l'alliance de Christ. Et non pas sur nos opinions, et non pas juste sur notre personnalité. C'est à Hébron que les relations deviennent spirituelles. C'est pour ça que ce n'est pas facile d'arriver à Hébron. Parce que construire des relations solides, c'est un dur travail. Construire des relations spirituelles, c'est un dur travail. Prenons l'exemple du couple, l'alliance du mariage. Avoir des relations fortes dans son mariage, c'est un dur travail. Ce n'est pas facile. Si je demande à tous les couples ici dans ce lieu, alors, comment c'est ta relation dans ton couple? Certains vont me dire, ouh, c'est vraiment chaud en ce moment. D'autres vont me dire, ça va, mais il faut encore progresser. Avoir des relations fortes, basées sur l'alliance, c'est un dur travail. Ça demande de l'investissement. Si tu préfères, construire des relations spirituelles basées sur l'alliance n'arrive pas par accident. Ça demande d'être intentionnel. Ça demande de s'investir. Ça demande une volonté personnelle. On ne se réveille pas le lendemain avec des relations fortes. C'est faux. Ça n'arrive pas par accident. Ça demande une volonté. Ça demande d'être intentionnel. Ça demande un engagement personnel. L'exemple encore du mariage est extraordinaire. Combien de couples en tant que pasteur, je vois et je me rappelle de quelques-uns, mais d'un couple en particulier où je discute avec cette future épouse et je lui demande alors comment ça se passe avec ton mari. Elle me dit, il n'a aucun défaut. Le gars, c'est une star. Aucun défaut. Je dis, ouh. Et quelques temps après qu'elle s'est mariée, je dis, alors, comment va ta relation avec ton mari? Elle fait, aïe, aïe, aïe. Le gars avait tous les défauts. Je me dis, c'est incroyable, vraiment, comment le mariage peut redonner la vue. Parce que si on dit l'amour en aveugle, c'est incroyable comment parfois le mariage veut redonner la vue. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que au départ, lorsqu'il y a une nouvelle relation qui s'installe, il y a une nouveauté, tout beau, tout nouveau, il y a une nouvelle romance. Et là, on est aveuglé, c'est oh, lui, elle, c'est waouh, c'est super. Et là, tout va bien. Le problème, c'est que parfois, les gens ne se connaissent pas vraiment. Mais quand on commence réellement à se connaître et que les défauts de caractère, les carences de caractère commencent à se manifester et qu'on voit que là, la déception arrive, les incompréhensions arrivent. C'est là qu'on a le choix de dire, attends, malgré les défauts, je vais toujours investir dans cette relation. Je ne vais pas laisser cette relation aller à la dérive. Je vais faire en sorte que cette relation soit construite sur la base de l'alliance. C'est là qu'on a le choix de passer à Adoulam, à Hébron. Parce qu'à Adoulam, la relation est basée sur qu'est-ce que l'autre peut faire pour moi, les besoins. À Hébron, c'est basé sur l'alliance et c'est pas pareil. Je vous ai partagé déjà cette histoire, ou plutôt le pasteur Marc disait, une fois qu'un jeune couple est venu le voir, et il questionne ce couple et lui dit, pourquoi vous voulez vous marier? Et le gars qui répond, tu sais, elle est belle, vraiment, elle me fait des petits plats, avec elle, je me sens plus seul. Il dit, ok, d'accord. Il se tourne vers la jeune fille et lui dit, et toi? Il me fait rire. Avec lui, je me sens accepté. Franchement, c'est super. Et il les regarde tous les deux, il dit, je vous marie pas. Et là, tous les deux gagnent saisissement. Ils comprennent pas, il dit, mais pourquoi tu nous maries pas? On s'aime. Il dit, ça suffit pas pour avoir un mariage fort. Parce que toutes les motivations qui vous poussent à vous mettre ensemble, c'est uniquement qu'est-ce que l'autre peut faire pour toi. Toutes vos motivations, c'est j'ai besoin de lui, j'ai besoin d'elle, elle me fait rire, il me fait rire, je me sens accepté, avec lui je suis plus seul. Il dit, aucun de vous m'a dit ce que vous pouvez faire pour l'autre. Aucun de vous m'a dit je veux me sacrifier pour elle. Je veux réellement qu'elle s'épanouisse et la servir. Je veux contribuer à ce qu'elle soit réellement rayonnante. Et pareil pour lui. Vous n'avez pas dit ça? Ça, c'est les relations basées sur Adoulam, sur les besoins. Qu'est-ce que l'autre peut faire pour moi? Hébron, c'est pas comme ça. C'est qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est pour ça qu'il y a une différence, une transformation des relations à Adoulam et les relations à Hébron. Et nous devons, en tant qu'église, en tant que couple, en tant que famille, avoir des relations basées sur le principe d'Hébron et non d'Adoulam. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Construire des relations pour arriver à Hébron, ça coûte. Ça coûte de s'engager. Ça coûte l'ego. Ça coûte parfois ton opinion. Ça te coûte quelque chose. Ça coûte ta chair. Ça coûte parfois des incompréhensions que tu ne cherches pas à savoir. Ça coûte un besoin qui n'est peut-être pas comblé. Ça coûte que même si tu es dans le besoin, tu dis, attends, je vais d'abord combler son besoin. Imagine, souvent dans les couples, c'est comme ça. Je ne fais pas un compte avec elle parce qu'elle ne fait pas un compte avec moi. Les deux ont le besoin de faire un compte. Et chacun se dit, avant que je fasse un compte avec toi, je vais attendre qu'elle fasse un compte avec moi. Faire un compte, pour la traduction bon français, c'est qu'elle puisse prendre soin de moi. Et on attend. Ça ne se passe pas comme ça avec Hébron. Jésus n'a pas attendu qu'on change pour donner sa vie pour nous. Il n'a pas attendu que Steve s'améliore ou que Cédric s'améliore pour venir mourir sur la croix et nous montrer l'alliance. Il a commencé à changer lui-même par amour pour nous. Et ça, ça coûte. Ça a coûté à Jésus sa vie. Donc Hébron, c'est le lieu où on construit les relations sur la base de l'alliance. Nous devons comprendre et nous allons méditer pendant ce message sur ce qu'est réellement l'alliance. En tout cas, le principe, la pensée. Nous allons aborder l'alliance. Et je ne pourrai pas faire ce message en une seule fois. Je prêche une première partie et la semaine prochaine, dans les semaines qui viennent, je partagerai la deuxième partie. Et à la fin, ensemble, nous pourrons bien comprendre c'est quoi construire des relations selon Hébron. Mais là, ce matin, nous allons aborder l'alliance. Nous devons aborder les relations avec une mentalité d'alliance et non de contrat. Faire alliance, ce n'est pas juste signer un contrat. J'ai entendu des couples dire, écoute, on est ensemble, mais je préfère pas me marier. Et je demande, pourquoi? Ah, parce que se marier, c'est juste signer un bout de papier. Et là, j'ai envie de leur dire, mais si c'est juste signer un bout de papier, pourquoi tu signes pas? Puisque c'est juste un bout de papier, signe. Parce qu'ils savent que ça les engage à quelque chose. Faire alliance, ce n'est pas juste un bout de papier. Malheureusement, aujourd'hui, on a une mentalité de contrat et c'est bien différent. 1 Chronique 11, verset 1, à partir du verset 1, nous dit ceci. Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron en disant, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. » Autrefois, même lorsque Saül était roi, c'est toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel, ton Dieu, t'a dit, « Tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron et David fit alliance avec eux à Hébron. Et David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël, selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel. Hébron, c'est le lieu de l'alliance. Le mot alliance signifie s'engager par un traité, une constitution, un accord, des ordonnances divines, un pacte. Mais la véritable pensée qui est derrière, ce n'est pas juste un contrat. L'alliance, c'est bien plus que ça. Nous devons faire la différence entre une mentalité de contrat et une mentalité d'alliance. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons beaucoup de contrats. Tu achètes une voiture, tu fais un contrat. Tu achètes une maison, tu fais un contrat. Tu montes une entreprise, tu as des partenaires, tu fais un contrat. Tout est question de contrat lorsqu'on s'associe. Mais avec Dieu, on ne s'associe pas de la même manière. Faire alliance, ce n'est pas faire un contrat. Il y a une différence. Par exemple, le contrat dit « Qu'est-ce que je peux recevoir au travers de cet accord ?» Et l'alliance dit « Qu'est-ce que je peux offrir au travers de cet accord ?» Le contrat dit « Meurs pour moi !» Et l'alliance dit « Je meurs pour toi !» Le contrat dit « Il faut que tu te saignes pour moi !» Et l'alliance dit « Je me saigne pour toi !» C'est différent. Si l'Église est construite avec une mentalité de contrat, alors de ces relations contractuelles va naître une organisation. Si l'Église est construite selon une mentalité d'alliance, alors de cette construction relationnelle sur l'alliance va naître non une organisation, mais un organisme. L'Église n'est pas une organisation. C'est un organisme vivant. C'est différent. Mais pour ça, il faut que les relations soient basées sur un fondement différent que celui d'un contrat. Dans le contrat, on cherche nos intérêts. Je vais m'associer et investir là-dedans parce que j'ai un gain personnel. Ça me rapporte quelque chose. Dans l'alliance, ça rapporte à Dieu quelque chose d'abord. Et par la foi, tu lui fais confiance par sa bonté que lui va te rémunérer. Et toi, tu t'investis sans attendre. Ça demande de la foi. Ça coûte la raison. C'est pas pareil. Et l'Église est un organisme et non une organisation. Et j'espère pour toi que tu construis ton mariage pour que ton mariage soit un organisme vivant. Et non une structure organisée, sans vie éterne. Parce qu'il est facile de devenir une église qui s'organise sans vie, juste une organisation. Mais ce n'est pas le cœur de Dieu pour son église et pour chacun d'entre nous. Faire alliance, c'est donner sa vie par amour. C'est donner sa vie pour recevoir la vie. C'est ça, faire alliance. C'est s'engager par amour à donner sa vie pour l'autre. Jésus dit dans Luc 9, verset 24, « Car quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie par l'amour de moi, la sauvera. » Jésus est clair. L'alliance est « Donne ta vie par amour. » Donner sa vie coûte quelque chose. Vous savez, l'alliance commence toujours lorsque quelqu'un est prêt à se saigner pour l'autre. Et Jésus a versé son sang pour nous. Pourquoi ? Parce que la vie est dans le sang. Lévitique 17, verset 11. En effet, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. La vie est dans le sang. Tu donnes ta vie pour recevoir sa vie. Et crois-moi, sa vie est bien mieux que la nôtre. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Galates 2, verset 20. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ma vie, c'est dans la foi que je vis. Ma vie, dans la foi au Fils de Dieu. La vie est dans le sang. C'est pour ça qu'en donnant sa vie, on reçoit sa vie. Frères et sœurs, ça parle ici pas de mourir forcément physiquement, même si parfois ça peut arriver. Ça parle de chaque jour dire à Jésus, « Ok, quel sacrifice de vie je peux faire pour toi, pour mon épouse, pour mes enfants, pour apporter la vie et faire en sorte que cette relation soit remplie de ta vie. Qu'est-ce que ça va me coûter ? Seigneur, parce que je sais que c'est ta vie qui compte. Et le prix qu'on paye n'est pas comparé à la récompense qu'on reçoit. La récompense extraordinaire. Luc 22, verset 20, il est écrit, « De même, la coupe aussi après le souper en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Jésus, pour nous faire entrer dans une nouvelle alliance, a versé son sang. Il a saigné pour toi et moi. Et chaque goutte de sang qu'il a versé se rappelait de toi et moi. L'alliance commence en général par un sacrifice. Vous savez, je prends l'exemple de la parole de Dieu. L'ancienne alliance ne commence pas lors de la Genèse. L'ancienne alliance commence avec Moïse, sous la loi. L'alliance de la loi commence sous Moïse. Où Moïse, dans le désert, tue un animal, prend une branche d'hysope, prend le sang et asperge le peuple, nous dit la parole de Dieu. Et là, l'alliance sous la loi commence. Abraham n'était pas sous la loi. Il était sous la foi. Il n'y avait pas de loi. Abraham n'a pas dit, je vais regarder dans la Genèse. Qu'est-ce qui est écrit ? Il n'avait même pas de Bible. Même pas de Pentateuque. Ni Isaac, ni Jacob, ni Joseph. La loi commence avec Moïse. Et l'ancienne loi se termine quand ? Sur la croix. C'est-à-dire que le Nouveau Testament ne commence pas au début de Matthieu. Le Nouveau Testament commence à la fin de Matthieu. Et de Luc, et de Jean, et de Marc. Le Nouveau Testament commence lorsque Jésus verse son sang à la croix. Est-ce que cela signifie que ce que Jésus a dit, c'est l'Ancien Testament ? Non. Parce qu'en étant ressuscité, il a dit « Et observez tout ce que je vous ai prescrit. » Mais il était venu sous la loi, nous dit la parole de Dieu, pour délivrer ceux qui étaient sous la malédiction de la loi. Donc l'alliance commence lorsqu'il y a en général un sacrifice. Ça parle d'un coup, mais un coup qui apporte la vie, la vraie. Un coup qui apporte la paix, la vraie. La prospérité, la vraie, celle qui vient, qui naît de l'intérieur. Et Jésus a versé son sang. C'est pour ça, par exemple, que lorsque un jeune couple vierge se marie dans le cadre de l'alliance du mariage, et ensuite ont des rapports, il y a du sang lors de la première relation. C'est comme ça qu'il scelle l'alliance. Dieu nous a créés comme ça. C'est pour ça que l'intimité est réservée au cadre de l'alliance. Et que l'intimité en dehors de l'alliance est illégale. Faire alliance, c'est ce que Dieu a fait avec nous en versant son sang. Il a fait alliance pour que nous puissions célébrer avec lui une profonde intimité. Quand on parle d'intimité, on parle encore de relation. De relation avec Dieu. Dieu a créé le cadre de l'alliance pour l'intimité. Lorsque nous parlons d'intimité, nous pensons parfois à l'obscurité. Le couple qui met une petite bougie et une petite lumière tamisée. Mais quand Dieu parle d'intimité, il ne pense pas à obscurité, il pense à lumière. C'est-à-dire, il parle d'une relation transparente, qui marche dans la lumière. Comme dit l'apôtre Jean, si vous marchez dans la lumière les uns avec les autres, et vous confessez, vous êtes transparent, alors oui, le sang de Jésus-Christ vous purifie de tout péché. L'intimité parle en réalité de transparence. Parle d'être mise à nu, si tu veux avoir une bonne image. où les relations sont vraies, où il n'y a plus de carapace ni de masque, plus de jardin secret. C'est mon jardin secret. Il y a le poison dedans et mauvaises herbes. Et ça détruit les couples. La relation d'intimité parle de transparence, de vérité. Chacun est mis à nu. On n'est pas parfait. Ou on est capable de dire, attends, pardon, j'ai fauté. On est capable, avec des hommes et des femmes de confiance, son épouse, de partager et d'avoir un cœur à cœur. Et de marcher dans la lumière. Et de marcher dans l'humilité. Ça, c'est l'alliance. Ça, c'est l'intimité. De dire oui à Dieu, mais de dire aussi à l'autre. Parce que l'alliance ébranle les relations. L'alliance est la plus haute forme de relation que nous pouvons avoir, spirituellement parlant. C'est lorsque les deux parties apprennent à construire des relations réellement selon les principes de Dieu, pas selon les émotions qui sont comme des montagnes russes. Alors aujourd'hui je t'aime, mais demain je t'aime plus. On est fichu si on construit les relations sur les émotions. Mais sur l'alliance, c'est différent. Tu laisses pas les émotions dicter ta volonté. Tu laisses ta foi en les principes de l'alliance en Jésus-Christ dicter ta volonté. C'est différent. Et lorsqu'un couple ou une église construit des relations comme ça, alors le couple devient fort. Il y a une histoire d'un homme de Dieu que je trouve forte. Il voyage beaucoup et il prêche Christ, prêche l'évangile. Et à un moment donné, il y a toujours des gens qui n'ont rien à dire. Et une personne qui vient le voir et lui dit, toi tu voyages beaucoup et souvent tu n'es pas avec ton épouse. Je me demande où elle est en ce moment. Voulant le faire comprendre que oui, quand un ministère voyage beaucoup, alors là il y a de gros risques pour que son couple puisse briser. Et j'ai aimé ce qu'a répondu cet homme de Dieu. Il a dit une chose, comme il était loin. Il a dit, il est vrai que je ne sais pas où elle est, mais je sais une chose, je sais où elle n'est pas. Parce qu'il connaissait sa femme. Parce que là, la relation a été testée maintes et maintes fois. Parce qu'il était capable de lui faire confiance avec sa propre vie. Ça, c'est des alliances selon Hébron. Ça, c'est des relations qui attirent le règne de Dieu. Ça, c'est des relations fortes en Jésus-Christ. Ça, c'est des relations qui font la différence. Et c'est ce genre de relation que Dieu veut que nous puissions célébrer. Vous savez, lors du souper qu'on a lu tout à l'heure et que Jésus partageait un repas avec ses disciples, juste avant de partager le repas, il dit à ses disciples, l'un d'entre vous me trahira. Et là, Pierre est interpellé et il y a Jean qui a sa tête sur la poitrine de Jésus. Et Pierre dit à Jean, demande-lui c'est qui ? Demande-lui c'est qui ? Et Jean demande à Jésus et Jésus dit, c'est celui avec qui je vais la tremper ce pain à lui donner. Et il donne à Judas. Et la Bible dit que Satan est entré dans Judas et que Judas est parti. Judas est parti avant que l'alliance soit scellée. Pourquoi ? Parce que Judas avait une mentalité de contrat. Tant qu'il pouvait suivre Jésus et avoir un intérêt, il le faisait. Dans sa tête, il pensait que Jésus était venu, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, pour bâtir un royaume terrestre. Il s'est dit, avec lui, on va renverser Rome. Oh, avec lui, il y a de la puissance. Avec lui, oh, je peux chasser les démons, guérir les malades. J'ai déjà testé. Ouh, j'ai une bonne position, une bonne place. Mais quand Jésus a commencé à révéler, à faire comprendre à ses disciples qu'il va mourir et qu'eux aussi, il y aura un prix à payer, Judas dit, oh, sans moi, laisse tomber. Il avait une mentalité de contrat et non une mentalité d'alliance. Celui qui cultive une mentalité de contrat peut être la proie de l'esprit de Judas. Parce qu'aujourd'hui encore, l'esprit de Judas peut sévir dans l'église avec un grand E. C'est une façon de voir les choses où quand je suis gagnant, je suis là. mais s'il y a un prix à payer, oublie-moi. L'esprit de Judas, c'est je veux l'intimité sans alliance. Je veux la puissance, mais sans intimité. Je veux l'intimité, mais sans responsabilité. Je veux le plaisir, mais sans m'engager. Je veux le succès, mais sans le prix à payer. Je veux la paix, la joie, le bonheur, mais sans vraiment m'investir dans cette relation. Ça, c'est l'esprit de Judas. Et quand Judas voit qu'il y a un prix à payer et que Jésus va mourir, il trahit Jésus pour 30 pièces d'argent. Et je me dis, comment ça se fait que pendant 3 ans, les disciples ont marché avec Judas, Jésus les a envoyés souvent 2 par 2 pour guérir les malades, marcher dans la puissance, et personne n'avait remarqué que c'était Judas qui avait un problème, sauf Jésus. Cela signifie que Judas était capable de faire ce que les autres faisaient. Il avait tout l'air à l'extérieur d'un homme qui aime Dieu. Il avait tout l'air d'être un coéquipier qui vraiment s'investissait, un leader parmi les autres leaders qui vraiment voulait épouser la cause de Christ. Mais quand il y a eu un prix à payer, là on a vu son vrai visage. Judas portait un masque, Judas portait une carapace. Il était attaché à l'argent et au bien de ce monde, au succès et à la notoriété. Quand il s'agit de s'humilier, il avait pas envie. Quand il fallait se mettre à nu, il a couru. Et à Hébron, il n'y a pas ce genre de relation. J'ai déjà posé cette question à l'église. Je la pose à toi. Es-tu capable de faire par amour ce que tu fais pour de l'argent ? Es-tu capable de faire par amour ce que tu fais pour de l'argent ? Je te garantis, l'amour est un meilleur rémunérateur que ton salaire. Essaye. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. J'aimerais te dire ceci, que le salaire de l'amour, c'est la vie. La vie d'en haut, celle de Christ, qui imprègne les relations, qui fortifie les relations, qui consolide les relations. Lorsque Jésus a fait alliance, on a vu tout à l'heure, c'était pendant un repas. Parce que le repas parle aussi de communion, un repas intime. Ça parle de partage. Ça parle réellement, écoute, expérimente ce que je goûte et je teste. Ça parle de réellement... d'expérimenter les uns les autres Christ qui est le pain de vie. Il dit prenez ceci est mon corps, buvez ceci c'est mon sang. Ça parle d'expérimenter Dieu pour que celui qui l'expérimente puisse permettre aux autres de l'expérimenter à leur tour. Ça parle de rencontrer Dieu afin que celui qui rencontre permette aussi aux autres de rencontrer Dieu. Ça parle de communion. Ça parle de connaître Dieu, pas uniquement à la verticale, ça parle de connaître Dieu aussi au travers des uns des autres, à l'horizontale. Parce que Christ est la tête et l'Église est son corps. Mais Jésus parle ici de la communion. J'aimerais te dire une chose très importante. Hébron est le lieu des relations pour le corps du Christ. Mais comprends bien ceci. On peut connaître Dieu dans une intimité... dans la prière entre lui et nous. Mais il y a une partie de la connaissance de Dieu qui ne va être révélée uniquement au travers de son corps, c'est-à-dire les uns avec les autres. C'est ça la communion. C'est ton expérience me nourrit, mon expérience te nourrit. Mon expérience de lui. La vie de Christ en moi te nourrit, la vie de Christ en toi me nourrit. Je te provoque par sa vie, tu me provoques par sa vie. Une collusion de vie qui explose dans les relations. Ça s'appelle la communion. L'apôtre Paul voit Jésus sur le chemin de Damas. Grande révélation. Et il dit à Jésus, que veux-tu que je fasse? Et Jésus lui dit, va à Damas et va voir mon peuple. Il te dira tout ce que tu devras faire. Autrement dit, écoute, tu vas découvrir qui je suis au travers d'eux. Et l'apôtre Paul, plus tard, a pu dire aux autres, « Imitez-moi comme j'imite le Christ. » Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il y a une mesure de Christ en chacun de nous, qui peut être partagée et être donnée afin que les autres reçoivent. C'est pour ça que, pour être un disciple, il faut déjà être un disciple et faire des disciples. Seul un disciple peut faire des disciples. Ça parle de la communion, ça parle de relations vraies, ça parle d'alliance, ça parle d'Hébron, avant Sion. Ça parle d'intimité, ça parle d'amitié, ça parle de se lier, ça parle de s'associer. Trop de gens, des fois, disent, oh, moi je veux connaître Jésus, mais uniquement Jésus. J'aime Dieu, mais pas son peuple. C'est une erreur. Tu ne veux pas dire j'aime le papa, mais pas ses enfants. La parole de Dieu dit celui qui aime Dieu aime son peuple. Et ça parle en réalité dans la communion que nous pouvons découvrir Christ aussi les uns au travers des autres, par le biais des relations. C'est le cœur de Dieu. À côté de l'intimité, l'alliance révèle l'intimité, mais c'est dans l'alliance que naît la famille. C'est dans l'intimité que les enfants arrivent. C'est dans l'intimité que nous devenons féconds. C'est dans l'intimité que nous multiplions. Et c'est dans l'intimité que la famille prend naissance. La famille prend naissance dans le cadre de l'alliance. Dieu a toujours désiré une famille, des enfants. Il a des myriades d'anges forts en puissance, des guerriers, des archanges, hyper puissants, une armée d'anges. Il a fait les hommes que nous sommes, non pas pour à nouveau avoir une armée, même si l'Église est une armée, mais avant tout pour être une famille en lui. C'est pour ça que lorsque nous donnons notre vie en Jésus-Christ, nous rentrons dans une nouvelle alliance pour devenir une nouvelle famille en Jésus-Christ, sur de nouvelles relations, celles de l'alliance, de nouvelles bases. L'Église à Hébron devient une famille. C'est à Hébron le lieu de l'alliance où la famille prend naissance. C'est à Hébron le lieu de l'alliance où l'intimité amène la fécondité. C'est à Hébron où l'assemblée de Dieu devient réellement la famille de Dieu. C'est à Hébron que les gens ne viennent plus à l'Église, mais deviennent l'Église. C'est à Hébron que la famille de Christ prend place, la spirituelle, pas la charnelle. C'est ce que Dieu veut. Écoutez bien ceci. Pour arriver à Sion et amener le règne de Dieu, nous devons comprendre que le règne de Dieu, c'est une affaire de famille. Sa cause, la cause de Christ, comme a partagé le pasteur Bruno la semaine dernière, c'est une affaire de famille. Le royaume, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est une affaire de famille. L'héritage et les bénédictions n'est pas donné aux étrangers, mais aux enfants. C'est une affaire de famille. On ne peut pas penser royaume de Dieu, son extension dans la nation, sans être une famille basée sur l'alliance de Christ. C'est pour ça que Jésus a dit, lorsque vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne, ta cause vienne. » Et que ta volonté soit faite. Parce que le règne de Dieu, c'est l'affaire du Père et de ses enfants. Le règne de Dieu est une affaire de famille. On ne peut pas envisager d'étendre son règne sans avoir des relations familiales basées sur les principes de l'Alliance. Nous devenons une famille par la foi en Jésus-Christ. Nous devenons une famille parce que nous pratiquons par la foi les valeurs et les principes de la parole selon l'Alliance en Jésus-Christ. Et les enfants prennent l'héritage, pas les étrangers. Et nous construisons les relations selon son alliance, même si nous ne sommes pas parfaits. Parce que c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il n'a pas attendu que nous étions parfaits pour nous montrer son amour, en mourant pour nous sur la croix. Et il a fait alliance avec nous. Et il t'invite, et il m'invite. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 5, 14, « Car l'amour de Christ nous presse. parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne connaissons plus de cette manière. Si un seul est mort pour tous, cela signifie que tous sont morts pour un seul. Si un seul est mort pour tous, cela signifie que tous peuvent vivre pour ce un seul, Jésus-Christ. Et quand nous choisissons de vivre pour lui, parce qu'il est mort pour nous, et nous disons, Seigneur, je renonce à ma vie personnelle pour te servir, pour toi, alors là, l'alliance prend forme. Il y a une relation puissante d'intimité entre toi et Dieu, entre ceux et celles qui font pareil. Il y a une interconnexion. Les relations deviennent saines, deviennent vraies. Et par le biais des relations, tu expérimentes la paix, tu expérimentes la joie. Le règne s'installe parce que le royaume de Dieu consiste en la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ça devient des relations spirituelles, plus charnelles, malgré les défauts. Tu regardes plus les autres et toi-même selon la chair, comme on a vu dans 2 Corinthiens 5. Tu regardes les autres avec les yeux de l'Esprit. Tu regardes les autres avec l'amour dans le cœur. Et tu regardes ton épouse, tu regardes ton mari, tu regardes tes enfants, malgré leurs défauts, malgré les carences de caractère, tu les regardes et tu dis, Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi tu as fait pour moi le premier. D'abord, je vais faire aussi pour toi. Si elle ne comprend pas, s'il ne comprend pas, toi tu comprends. Et l'amour va t'apporter un salaire. Et ce salaire-là, c'est la vie de Jésus-Christ. Ce salaire-là, c'est la vie de Jésus-Christ. C'est la récompense, l'héritage par l'alliance. Et là, ta relation devient extraordinaire. Et tu amènes par le biais de ta relation avec Dieu et ceux qui font pareil, les uns entre les autres, la paix de Dieu. Et tes relations, malgré les difficultés, tes relations, malgré la tempête, deviennent stables. C'est fort. Et tu expérimentes le paradis sur terre. Même s'il y a des guerres, la joie de Dieu est ta portion. La joie de Dieu est ma portion. Ça, c'est bon. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. C'est une bonne nouvelle, ça. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et ton prochain comme toi-même. Il y a de la valeur dans les relations. La vie passe par les relations. Le baromètre ou le thermomètre, ce que tu veux, de notre intimité avec Dieu est révélée au travers des relations. Dieu a créé une nouvelle alliance pour avoir une nouvelle famille. Et c'est à Hébron que cette famille comprend cette alliance. 1 Chronique 12, verset 22 nous dit ceci. Et de jour en jour, des gens arrivaient auprès de David pour le secourir, jusqu'à ce qu'il eût un grand camp, comme un camp de Dieu. Comme un camp de Dieu. Le mot camp signifie corps. C'est à Hébron que l'Église est devenue un corps. Le peuple de Dieu est devenu un corps. L'Assemblée est devenue un corps. À Hébron, cela parle du corps de Christ, son Église, nous, vous et moi, qui installe et construisent des relations fortes, qui a compris comment faire des relations selon ses principes, selon son alliance, et qui irrite du règne. Et Dieu nous prépare pour Sion, pour amener son autorité, son règne autour de nous, parce que nous le découvrons comme notre Père. Et nous choisissons de marcher comme réellement ce que nous sommes, ses enfants, qui sanctifient le nom du Père. Que ton nom soit sanctifié. Comment sanctifions-nous son nom? Par un style de vie qui manifeste les principes des valeurs de l'Alliance. Un style de vie et de conduite qui représente Jésus dans notre caractère, dans l'intégrité. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Ça, c'est Hébron, le lieu où les relations font alliance. Et frères et sœurs, nous sommes à l'Église d'Extravagance dans cette saison. Cette saison, nous savons que c'est le temps de l'occupation, le temps que du règne arrive. On aura une grande année en 2014. Et pour ça, surtout le leadership de l'Église, il est important que nous puissions nous imprégner de ce message et le vivre. et avoir des relations saines. Vous savez, le pasteur Bruno et moi-même, aujourd'hui, nous pouvons dire, et vous le savez, que nos relations ont été éprouvées. Lui avec Marc, moi avec Marc, les uns envers les autres. Une relation charnelle ne passe pas les tests et les épreuves. Une relation spirituelle, si. Et nous allons voir la semaine prochaine comment Jésus, lui-même et David, a testé les relations pour les rendre fortes et spirituelles. Comment Jésus a mis au défi, à éprouver la raison de certains pour voir s'ils le suivaient vraiment par la foi, par amour. Vous connaissez notre histoire, pour chacun, la plupart d'entre vous. Quand le pasteur Bruno est parti en 2006, j'étais pasteur en formation, il est parti avec tout le groupe de louanges. J'ai dû reprendre l'église avec un autre groupe de louanges. C'était la catastrophe avec les conflits, mais l'église a grandi par la grâce de Dieu. Le pasteur Bruno était parti pour être aiguisé. À l'époque, au départ, tout le monde croyait que tu es parti vraiment pour aider le pasteur Marc. Pendant 3 ans, rien dit à l'église. Il est venu lui-même dire à l'église qu'est-ce qui s'était passé. Après, au bout de 3 ans, c'est moi et mon épouse qui part, l'église est sans pasteur. J'ai formé 1 an, je reviens 1 an après, 8 mois avant le pasteur Bruno, et pendant 8 mois, je reviens dans l'église, mais je ne suis plus le pasteur principal. C'est un nouveau Bruno, mais qui n'est pas là. Et là, j'ai le choix dans les relations. J'avais même le choix quand j'ai vu les défauts de caractère de mon leader. Parce que j'en ai vu. Moi, j'ai plein de défauts de toute façon. Mais c'est là qu'on se dit la romance va quand même se poursuivre. Et pas par rapport à ses défauts ou mes défauts, mais par rapport au principe de l'alliance. Elle va se poursuivre. Et la relation va être forte et stable et mature. C'est le cœur de Dieu pour son Église. L'Église n'est pas une organisation. C'est un organisme. Et malgré les incompréhensions, malgré les tirages des cheveux, c'est une image, hein. Je ne peux pas tirer, mes cheveux sont courts. De dire non, je choisis, Seigneur, de te faire confiance et d'être loyal. Et je me suis dit, à l'époque, par exemple, quand je suis revenu en tant que pasteur, je dis, je ne suis pas capable de consolider le leadership de Bruno qui est en Afrique du Sud et qui n'est pas là. Alors comment je vais faire pour consolider le leadership du Saint-Esprit qui lui est au ciel et qu'on ne voit pas? Est-ce que les relations parlent d'alliance en Jésus-Christ pour manifester la puissance du nom de Jésus, son règne, son autorité? Voir les signes, les miracles et les prodiges augmenter, se multiplier. Voir les vies restaurées. Voir les relations fleurir. La paix se multiplier. Les cœurs transformés. Pour ça, il faut venir à Hébron. Et aujourd'hui, nous savons que Dieu nous a conduits, pasteur Bruno, moi-même et l'équipe, à encourager tout le leadership et l'Église précieuse que vous êtes. À vous dire maintenant, il faut avoir un niveau, il faut passer au stade du niveau relationnel supérieur. Vivons vraiment pour sa cause, car nous sommes sa famille. Et c'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. C'est son cœur pour chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas parfaits, frères et sœurs, comme vous le savez, mais laissons l'amour de Dieu nous permettre de marcher dans son alliance, de marcher dans le pardon, de marcher dans la réconciliation, de marcher dans l'exhortation, de marcher dans l'encouragement, de marcher dans la vérité, dire la vérité dans l'amour et bâtir des relations qui soient à la gloire du roi des rois. Des relations dans le leadership où l'amitié en Jésus-Christ est vraie, où on peut être vrai. Vous savez, même parmi vous, quand on fait des erreurs, on le confesse et on le dit parfois. Vous comprenez que nous ne sommes pas des surhommes. Un pasteur a plein de problèmes aussi. Et il faut le caractère qu'il doit changer. Un couple qui doit être consolidé constamment. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Et c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Pour son Église. Puissions devenir les enfants de Dieu que nous sommes déjà. Mais le manifester. Amen.